Ainsi va le monde, c'est la chronique de Geneviève Guichenet.
J'ai titré ma chronique « Sale temps pour les filles ». Ce matin-là, madame la proviseure dut recevoir deux élèves de la même classe. À l'une, elle demanda de se découvrir, à l'autre, de se couvrir. L'une portait le foulard dit islamique, l'autre laissait voir un string au-dessus de la ceinture de son pantalon bâillant bas sur sa chute de rein. Les deux jeunes filles vivent dans la même cité où elles sont nées au tournant des années 80, toutes deux bonnes élèves de terminale. Chacune a deux frères à l'avenir incertain. L'une raconte que ses frères prennent très mal qu'elle fasse des études pour devenir enseignante et l'accable de reproches quotidiens. Ils ont dépassé l'âge scolaire et malgré une formation professionnelle, ils ne trouvent pas de travail correspondant. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'ils aimeraient faire de leur vie. « Que font-ils de leur journée ?» demande Madame B. « Ils traînent dans la cité, » répond Leïla. « Un jour, avec des copains, ils m'ont traité de salope. Moi, je veux réussir mes études. Je ne veux pas faire comme ma mère. Elle est d'accord et elle m'encourage. Elle, elle n'a pas eu la chance d'aller longtemps à l'école. Elle sait le français, mais elle ne l'écrit pas. Elle ne vote pas. Elle veut qu'on s'intègre et elle dit que l'école est le seul moyen. Mon père travaille depuis toujours. » Je sens qu'il est triste de voir mes frères comme ça. Ils ne l'écoutent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire comme lui. Trimés à des boulots trop durs, mal considérés. Alors un jour, à cause d'un type dans la cité qui leur raconte des histoires sur l'islam, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose pour avoir la paix. J'ai décidé de porter le foulard. Ma mère a pleuré. Mon père n'a rien dit. Mes frères en sont restés sidérés. Ils n'osent plus me faire de réflexion quand je pars pour l'école. Leurs copains non plus. Vous comprenez, madame ? Je dois faire comme ça, sinon je resterai comme ma mère. » L'autre jeune fille, un anneau piqué dans le nombril, l'air absent, marmonne qu'elle ne voit pas où est le problème. « Si je porte un string, c'est pour qu'on le voit. C'est la mode. Dans la cité, je mets une veste par-dessus. Moi, vous comprenez, j'en ai marre de ne pas pouvoir m'habiller en fille. »«
Pas t'habiller en fille ?» dit Madame B.
« Non, parce qu'on se fait traiter de salope. Mes frères me disent que si je me mets en jupe, c'est de la provoque et que je vais me faire violer. Une fille s'est fait violer dans l'immeuble à côté. »
Sur des affiches dans la rue, non loin du lycée, des femmes alanguies posent pour une marque de lingerie. Le commentaire en bas de l'affiche dit combien cette tenue est de nature à émoustiller les hommes. On en trouve à tous les coins de rue imposés au regard des passants et de ces deux jeunes filles qui se demandent, comme on le fait à cet âge, ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. La veille au soir, à la télévision, on a pu voir encore une émission sur la chirurgie esthétique. Témoignages de femmes qui ont manifesté dans leur jeunesse contre l'excision et l'infibulation, qui ont défilé derrière les banderoles à travail égal, salaire égal, hurlé contre les femmes postiches. Sur le plateau, elles sont plusieurs, avec leurs bouches de canard, les yeux bridés par le bistouri. L'une blond platine, habillée un peu minette, explique qu'elle est plutôt contente qu'on lui demande si elle est la sœur de sa fille. Sa fille, pantalon baggy, cheveux hirsutes, piercing dans le nez, croque-nos aux pieds, bougonne qu'elle trouve ça super qu'on prenne sa mère pour une copine, préfère-t-elle à sœur. Son regard triste dit le contraire. Que peut-elle dire ou faire ? Que peuvent-elles dire ou faire nos petites jeunes filles devant ceux qui les traitent de salopes chaque fois qu'elles s'habillent en filles, devant ces mères qui, telle la sorcière de Blanche-Neige, interrogent affolées, miroir, mon beau miroir, devant les affiches présentant les femmes comme des étahirs, devant les crèmes anti-âge, les interdits de vieillir, les convocations à jouir pourvu que ce soit dans une lingerie de marque, et devant les femmes absentes de la vie politique. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont vêtues de pantalons informes, de grosses chaussures, avec au cou de grandes écharpes trois fois tournées, faisant une minerve, le nez ou la lèvre percée. S'habiller en fille est une expression nouvelle, utilisée de surcroît pour dire que l'on ne peut pas. Que se passe-t-il du côté des femmes ? Et des hommes aussi, forcément. Tout cela paraît si méchant. Le comble est atteint lorsque l'on apprend à la télévision toujours que la chirurgie esthétique s'exerce jusque aux plus intimes du corps des femmes. Sont décrites des opérations dont Sade a livré une outrance perverse et littéraire dans La philosophie dans le boudoir ou Les 120 journées. Pervers, oui. Quelque chose s'est perverti dans la relation aux femmes. Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons que rapprocher des éléments troublants en ce qu'ils tournent autour d'une altération confuse et complexe qui n'arrive pas à se dire mais qui blesse, comme en témoigne l'agressivité manifestée à l'égard des jeunes filles voilées. Que font-elles surgir ainsi au détour de ce choix, lui aussi complexe ? Surgir et que l'on ne veut pas entendre. Le problème n'est pas tant le voile que ce qu'il cache. Un corps de femme soudain dérobé et comme crié, quand il s'étale dans le même temps sur les affiches et les écrans dans un déni outrageant de la dignité féminine. Dérober aussi le corps des jeunes filles qui ne peuvent plus distelles s'habiller en filles. L'égalité homme-femme a-t-elle gommé la différence au point qu'elle fasse retour si violemment? Qu'a-t-elle manqué pour aboutir à cette régression insupportable qui empêcherait tout discours? Les femmes d'aujourd'hui apprécient-elles de lutter de façon aussi mutilante contre des ans l'irréparable outrage? Pourquoi ne se rebellent-elles pas contre le terrorisme anti-âge? Sont-elles fatiguées de l'idéal démocratique qui fut celui de toute une génération, incarnée jusqu'à l'épuisement par les executive women qui conciliaient cheveux au vent, dossiers, réunions et tenues de la maison tout en serrant les dents? Elles semblent soudain frappées de mutisme devant la déferlante de potiches alanguis. En revanche, les mêmes femmes reprochent violemment aux jeunes filles voilées de mettre à bas des années de lutte, de laisser entendre ainsi qu'un corps de femme découvert ne peut qu'attiser la concupiscence masculine. Or, que disent les affiches dans leurs clichés humiliants? La même chose! Un corps de femme, paré d'une lingerie autrefois l'apanage des femmes dites de petite vertu, est bien là pour exciter le regard des hommes. Le voile et le dévoilement disent la même chose. Quelle intégration propose-t-on à ces jeunes filles de parents immigrés qui ne votent pas, que l'on a fait venir pour travailler dans nos usines, dont on a fait venir les familles au nom du regroupement familial et dont seules des associations s'occupent? Françaises, elles doivent satisfaire à l'obligation scolaire. Passottes, elles ont bien vu quelle partie elles pouvaient enterrer. Elles saisissent la chance qui leur est offerte, oui, mais voilà. Ce faisant, elles sont en situation de dépasser leurs parents et leurs frères. Comment faire? Surtout vis-à-vis des parents. Avant d'immigrer, ces parents ont émigré, c'est-à-dire perdu une place, un environnement de signes connus, de points de repère partagés par tous. Ici, plus rien. Une langue qu'ils ne maîtrisent pas, dans laquelle de toute façon ne s'inscrit pas leur histoire, des mœurs différentes et un refus de reconnaissance, faute de se voir ménager une place, une vraie place, et un accompagnement à la hauteur de l'attente où l'on est par rapport à eux. Les jeunes filles sont parvenues à un âge où elles peuvent en finir avec cette vie au bord d'une société qui vous refuse. Elles veulent vivre autrement que parquet et dans la pauvreté. Les frères ne sont pas tous des glandeurs se livrant à de petits trafics juteux. Les chiffres indiquent que le plus grand nombre de PME, petites et moyennes entreprises, créées en ce moment, le sont par des jeunes gens issus des quartiers, comme on dit aujourd'hui, pour voiler une réalité dont on n'est pas fier. Quel rapport avec le sort des filles? Les jeunes filles que l'on veut punir en les excluant de l'école choisissent la voie de la réussite scolaire. On ne saurait tout de même pas les en blâmer, mais elles le font en restant reliées à leurs parents, par un signe qui leur permet de ne pas tout trahir, de ne pas les abandonner à leur abandon. Ce choix s'inscrit dans leur histoire à elles, quand nous ne savons que leur opposer notre histoire à nous, ou bien celle de pays qu'elles ne connaissent pas. Il faut avoir entendu des débats où on leur jette littéralement à la figure le triste sort des femmes afghanes, la dure réalité de la condition des femmes en Arabie Saoudite. Elles essaient de dire que tel n'est pas leur souci, qu'elles ne vont chercher là nulle inspiration. Elles sont dans le calendrier de leur histoire particulière. Elles cherchent une entrée dans notre société. Elles y arrivent voilées pour des raisons complexes que nous n'avons fait qu'effleurer, simplement pour donner une idée que nous nous trompons sur ce qui se joue pour elles. Pas de chance, elles tombent mal parce qu'elles pointent la contradiction à laquelle sont confrontées les femmes françaises de plus longue date et qui a bien du mal à se dire. On est gêné de voir défendre notre conception du statut et du rôle des femmes lorsqu'on a encore dans les yeux les images étalées à longueur d'affiches et de magazines, les concours de beauté et les héroïnes paradoxales de l'époque. Actrices de porno, invitées à témoigner dans les émissions de télévision, lorsqu'on doit constater la réduction du nombre d'élus nationales, le malaise devant les jeunes filles en pantalon trop large qui disent ne plus pouvoir s'habiller en filles. La mode des pantalons baggy nous vient des États-Unis. Ils sont une sorte de solidarité après coup avec les esclaves noirs. On leur retirait leur ceinture, ce qui faisait s'écrouler leurs pantalons sur leurs hanches. Un détail supplémentaire fait que l'on retrousse une des deux jambes du pantalon pour laisser la place à la chaîne qui enserrait la cheville des esclaves lors de leurs déplacements en processions humiliées. Nos enfants s'identifient à des humiliés. Ils veulent dire leur solidarité. Confusément, les uns dans ces tenues, les autres en se voilant, par solidarité avec leur mère, doublement humiliés. Et aujourd'hui, comme le montre une enquête faite au lycée Eugène Delacroix de Drancy, les jeunes filles se déclarent hostiles à l'interdiction du voile et encore plus à l'exclusion de leurs camarades voilés. Toutes les femmes sont concernées par ce qui se passe autour du voile. Voilées ou trop dévoilées, assignées aux soupçons de séduction ou bien à son pendant la séduction obligatoire. Toutes paient au prix fort leur place dans la société. Car leur place est mise en cause. Les jeunes filles voilées ont le mérite de faire effraction et de nous obliger à nous interroger.
Ne pas partager solidairement leur combat, ne pas essayer de le comprendre, d'en chercher les causes profondes, complexes, en partie confuses, serait funeste. Pour l'heure, on se jette les humiliations à la figure, on se juge injustement, au lieu de se parler, d'ouvrir un débat généreux. Nous avons beaucoup à échanger, plus que des anathèmes et des condamnations. Ne voyons-nous pas que s'attaquer aux jeunes filles voilées, c'est attaquer des femmes ? Au lieu de leur reprocher de mettre la République en danger, n'exagérons pas. Nous ferions mieux de nous demander par quel glissement progressif nos sociétés avancées ont réussi à renouer avec l'humiliation des femmes. C'est sans doute pour cela que les femmes sont en colère après le voile, parce qu'il vient souligner de manière si visible, par un contraste saisissant avec l'imagerie féminine actuelle, ce que nous n'arrivons pas à nous dire. Le reproche fait aux jeunes filles voilées est qu'elles reposent de façon paradoxale, on en convient, l'idée de la femme objet sexuel, vue à travers le regard forcément concupiscent des hommes. Ce n'est pas le regard des hommes sur les femmes qui pose problème. C'est son emprise sur la relation entre les femmes et les hommes, quand il y enferme les femmes. En s'enfermant dans le voile, les jeunes filles disent exactement ce que nous ne voulons pas savoir en ce moment, du retour d'une soumission, d'un enfermement. Combien de femmes aujourd'hui évacuent la question posée par la nouvelle imagerie féminine en disant que c'est plus joli ? En disant cela, de même que par leurs efforts pour rester séduisantes à tout prix, à tout âge, elles se soumettent à l'emprise et la pérennisent. Il ne s'agit pas de récuser tout ce qui fonde la relation entre les hommes et les femmes. Le regard des hommes en fait partie, il fait partie de la différence des sexes. Une jeune fille de 16 ans qui veut s'habiller en fille a bien envie que les garçons flashent sur elle, la kiffe, comme il et elle disent aujourd'hui. Mais voilà qu'elles ont peur, que c'est risqué. En s'y soustrayant de manière aussi spectaculaire, les jeunes filles voilées pointent un gros malaise. Le malaise est complexe et immense. Il fait partie d'un ensemble plus vaste, de recul des idéaux démocratiques, parmi lesquels l'égalité homme-femme, dans le respect joyeux des différences. Toute joie semble avoir disparu. L'heure est de nouveau à la lutte face à ces reculs. Partout dans le monde, des signaux témoignent du recul. Force est de constater que les femmes en sont les victimes privilégiées. C'est si facile, si ancré dans une sorte de naturalisme que les luttes féministes trop récentes n'ont pas réussi à faire disparaître. Quelques exemples aident à s'interroger à défaut d'apporter des réponses. Aux États-Unis, plus un homme ne peut prendre le risque d'un tête-à-tête avec une femme. On cite même le fait courant que si un homme se trouve seul dans un ascenseur avec une femme, il en sort et attend le suivant. Un professeur ne rencontre plus jamais une étudiante dans son bureau sans laisser la porte ouverte et s'assurer que des témoins peuvent les observer. En Afghanistan, alors que les femmes de la famille royale, suivies par celles de la grande bourgeoisie, avaient réussi à se dévoiler, la terrible burqa a refait son apparition. En Irak, où le gouvernement transitoire, avec l'aval de l'occupant américain, dit-on, veut abolir les dispositions garantissant les droits des femmes, dont celui de faire des études et exercer des métiers d'hommes. Nous n'en sommes pas là et n'en serons jamais là parce que notre histoire et notre culture sont autres. Cependant, nous sommes obligés de constater que le recul des valeurs démocratiques dont chacun peut faire et fait le constat dans notre partie du monde met en cause la place des femmes ici aussi. Il est aberrant que les jeunes filles d'aujourd'hui aient peur de s'habiller en filles. Aberrant, terrifiant pour elles. Les jeunes filles voilées, les pantalons baggy, les filles pulpeuses des affiches, tout ce que nous avons rassemblé ici, tout cela parle d'humiliation. Rassemblés pour tenter de mettre en relation et trouver d'autres réponses que les incantations féministes qui ont fait leur temps. N'ajoutons pas une humiliation à une autre pour entrer dans une spirale perverse dont tout est fait pour que l'on y tombe. Ne nous trompons pas de colère. C'est par de nouvelles solidarités que nous trouverons les voies et moyens d'empêcher la démocratie de continuer son mouvement inquiétant de recul, ici, là-bas, partout. Persuadons-nous que ce n'est pas fatal et que le nouvel ordre du monde n'engloutira pas les progrès que des générations ont réussi à arracher à l'adversité humaine. Luttons de toutes les manières possibles pour plus d'humanisme et commençons par protéger les filles.